Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci de nous écouter tous les matins à la radio ou quand vous voulez en passant par le podcast. Une grande rétrospective consacrée à Victor Vasarely, le père de l'art optique, actuellement au musée Georges Pompidou, Beaubourg, permet de mieux appréhender l'œuvre de cet artiste du XXe siècle. Vasarely et ses combinaisons répétitives, géométriques, nettes et abstraites, Vasarely et ses lignes, ses ellipses flashy, ses ovales et carrés, tout un art au service de la logique, de la science, sont donc au centre de cette impressionnante exposition qui raconte aussi le Vasarely d'avant sa consécration dans les années 70 et le Vasarely d'après quand il a cessé d'être à la mode. Et tout ça bien sûr à travers ses peintures, ses sculptures, quelques intégrations architecturales, ses publicités, ses produits dérivés. Bienvenue donc dans le monde de Vasarely, le plus populaire des artistes méconnu, pour reprendre l'expression d'Ailey Edwards Dujardin, mon invité ce matin, qui est tout à la fois historienne de l'art, historienne de la mode, et qui est auteur d'un livre consacré à l'artiste qui vient de sortir dans une nouvelle collection aux éditions du Chêne.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Près de 300 œuvres, peintures, maquettes, objets, documents, publicités pour explorer le continent Vasarely. C'est ce que propose donc le Centre Pompidou-Beaubourg jusqu'au 6 mai avec cette grande rétrospective intitulée Victor Vasarely, le partage des formes. Bonjour à Ailey Edwards Dujardin.
Bonjour.
Il faut quand même rappeler que Vasarely a traversé le siècle, hein, puisqu'il est né en 1907 et qu'il est mort en 1996. Et tous les courants modernes du XXe siècle, on peut dire qu'il les a traversés.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec Vasarely, c'est que sa grande célébrité, sa grande popularité est finalement arrivée assez tard. Mais avant ça, il a étudié le Bauhaus, il a créé des œuvres inspirées du constructivisme, du suprématisme. Il a aussi créé des œuvres très graphiques dans les années 30. Et c'est petit à petit qu'il est allé vers l'abstraction totale à partir de la toute fin des années 40 et début des années 50.
Alors, s'il fallait raconter son histoire, vous qui le faites si bien dans ce livre, d'ailleurs c'est une nouvelle collection, il faut le dire, ça c'est de l'art. Et elle est destinée à ceux qui n'ont pas connu les années 70, c'est les années Vasarely. Et là, le premier livre de cette série est consacré à Victor Vasarely. On parle de l'op art, par exemple.
Oui.
L'optique art.
Oui.
Alors c'est inventé Vasarely.
Oui, c'est un terme qui s'est popularisé dans les années 60, notamment suite à une grande exposition qui s'appelait The Responsive Eye, qui a eu lieu à New York, au MoMA. On parle souvent en français, on utilise le terme cinétique, art cinétique. C'est à peu près la même chose. Voilà. C'est le terme op art s'est popularisé dans les années 60 parce qu'il collait à une tendance, il était plus à la mode. Et oui, on peut considérer que Vasarely est le père de l'art optique parce que avec ses œuvres dites cinétiques des années 50, il a amené vers cet intérêt de l'art qui vient troubler l'œil en fait, qui fait travailler la perception de l'observateur aussi, et qui n'est pas juste représentatif, qui fait intervenir les spectateurs.
Alors, s'il fallait parler de sa formation, c'est-à-dire avant d'arriver aux années 50, aux années 60, où il va vraiment développer l'art optique, Vasarely, il passe par où? Donc, il est né à Budapest.
Oui, alors il suit des études, alors très brièvement de médecine. Et il va se tourner vers les beaux-arts assez rapidement.
Mais c'est très intéressant de dire qu'il suit des études de médecine, qu'il a fait un peu médecine, parce que la science sera très très présente dans sa carrière et dans son œuvre.
Tout à fait. J'imagine que pour faire des études de médecine, il faut avoir des connaissances mathématiques assez pointues. Donc certainement que oui, comme on sait que les mathématiques ont nourri sa création artistique, certainement qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ses toutes jeunes années avant la médecine et en médecine.
Alors qu'est-ce qui se passe dans les années 20 pour qu'il laisse tomber la médecine?
Alors, c'est une bonne question.
Qui s'intéresse à l'art.
Je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Toujours est-il qu'il va faire une école d'art allemande très connue.
Alors, il va être à l'école Mühli, qui suit en fait les principes d'éducation artistique du Bauhaus, donc qui est en Allemagne, mais lui, il fait ses études en Hongrie. il va effectivement...
Alors le Bauhaus, c'est tout à la fois cette école d'art allemande, mais c'est aussi un courant artistique.
Hein, exactement.
Qui a vraiment posé les bases de l'architecture moderne.
Oui, et qui a aussi posé les bases de cette, de ce rééquilibrage en fait entre disciplines artistiques. C'est-à-dire qui a voulu effacer les frontières. C'est-à-dire que les arts appliqués étaient tout aussi importants que la peinture, que l'architecture. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Bauhaus, enfin au Muoli, il étudie tout autant les arts graphiques, la publicité, parce que ce ne sont pas considérés comme des sous-disciplines artistiques.
Il arrive à Paris en 1927, c'est-à-dire très jeune. Il a quoi? Il a 21 ans.
Oui, voilà. Tout jeune.
Il vient pour des raisons politiques ou il vient pour continuer sa formation artistique?
Je pense plus personnel et artistique que politique. C'est à Paris quand même un centre de l'avant-garde dans les années 20. Ça lui permet aussi de travailler parce qu'il vient à Paris pour être illustrateur publicitaire dans un premier temps. Il est graphiste et forcément les grandes agences publicitaires, les grandes campagnes, il peut travailler dessus de Paris. Il va travailler avec les agences Havas, qui sont quand même, par exemple, qui sont quand même des très grandes agences.
On connaît le Vasarely des années 70, hein, c'est-à-dire cette culture pop, nourrie par la science-fiction. On sait ce qu'il a fait aussi bien pour la culture musicale, hein, une pochette de disque pour David Bowie, Jean-Christophe Averty qui utilisait aussi son design pour ses émissions. Tout ça est très présent dans l'exposition Vasarely au centre Pompidou. D'ailleurs, c'est pas par hasard, hein, que ce soit le centre Pompidou qui lui rend hommage, parce que voilà, le fameux portrait de Pompidou du centre qui porte son nom, c'est bien entendu une œuvre de Vasarely. Et pourtant, on est accueilli par cette période qu'on connaît moins et qui est très très belle de Vasarely. C'est-à-dire, on est accueilli par ce qu'il a fait dans les années 30, ces zèbres avec des formes déjà géométriques, jouant déjà avec l'illusion optique.
Mmh, tout à fait.
Alors, c'est quoi cette période de Vasarely où il mêle le figuratif d'un zèbre, par exemple, avec l'abstraction des réseaux?
Mais c'est une période fondamentale, c'est indéniable. C'est vraiment la période qui va initier ce que l'on connaît de lui plus tardivement, parce que du figuratif, il va aller vers l'abstrait, parce que justement, en dessinant un zèbre, il va s'appuyer sur les lignes, il va se rendre compte que c'est la ligne qui attire son œil, c'est ce qui est important. Il y a une autre œuvre de lui aussi qui est très belle, moins joyeuse mais très belle, qui s'appelle Les Bagnards, où là aussi on a ce travail sur les lignes. Donc oui, c'est vraiment, d'ailleurs il le dit lui-même, hein, que ce sont les années fondatrices de son art des années 50-60. Et c'est aussi une combinaison du graphisme justement de l'illustrateur publicitaire et de sa patte artistique qui va privilégier la ligne, la courbe, et finalement faire ressortir la forme plutôt que le dessin lui-même.
Ce sont des peintures, hein. Il faut rappeler que ce sont
bien
des tableaux.
Sûr. Oui, on a toujours tendance à penser, même les œuvres plus tardives, à croire que c'est de l'art numérique, tellement ça paraît spatial. Mais non, c'est de la peinture, c'est de l'acrylique ou c'est de l'huile, mais ça reste de la peinture. Il y a de gestes artistiques quand même derrière.
Elle est Édouard Dujardin, vous avez donc consacré tout un livre à Victor Vasarely pour résumer un peu son parcours, son œuvre, ses influences. Alors justement, pour parler de cette période-là, la période des zèbres, il est influencé par quel mouvement, il a traversé quel mouvement artistique?
Mais alors, le Bauhaus, évidemment. On peut aussi regarder vers le constructivisme, le suprématisme, donc Malevitch. Il vient quand même des pays de l'Est, donc il est nourri de cette avant-garde de l'Europe de l'Est, qui est quand même très très importante à l'époque. Oui, enfin vraiment, je crois que c'est vraiment Malevitch ou L. Lissitzky qui sont ces artistes de la période constructiviste, mais aussi Paul Klee, que l'on connaît du Bauhaus, la forme, le trait, voilà, la rigueur aussi, la rigueur géométrique et la rigueur graphique.
Et le minimalisme qui est déjà présent là?
Oui, qui est présent. Et d'ailleurs, on peut aussi dire que c'est aussi un avant-gardiste du minimalisme, parce que le minimalisme, tel qu'on le connaît en tant que mouvement artistique, c'est un mouvement qui apparaît bien plus tardivement, vers les années 50-60, et lui-même, déjà, est un apôtre du minimalisme.
Il va être très vite reconnu, alors peut-être pas en tant qu'artiste, mais en tant que graphiste.
Oui, il en vit très bien. C'est un métier qui, il arrive même à se créer un atelier avec des employés. C'est un grand illustrateur publicitaire. Il délègue, enfin voilà, il en vit. Et ce qui d'ailleurs, c'est une chance parce que grâce aux revenus que lui procure la publicité, il peut se consacrer à ses recherches artistiques.
À partir de quel moment il devient connu dans le monde entier, Vasarely?
Je dirais, dans le monde entier, j'aurais tendance à dire dans les années 60, il y a quand même l'exposition de 1955 qui s'appelle Le Mouvement, qui a lieu à la galerie de Denise René à Paris.
Et déjà, les gens ressortent avec le vertige.
Voilà, c'est vraiment l'exposition phare qui va poser la célébrité de Vasari, peut-être en Europe, je ne sais pas encore vraiment à l'échelle internationale. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'elle s'intitule Le Mouvement, qu'elle travaille sur le mouvement, mais qu'il est le seul artiste dont l'œuvre n'est pas mobile ou mécanique. C'est le seul dont l'œuvre présentée est une œuvre dont le mouvement est créé par l'œil qui l'observe.
C'est la 3D sans que ce soit de la 3D, quoi.
Voilà, et c'est là vraiment l'op art qui se met en place à partir de là.
Comment cet art va évoluer? Parce qu'on a l'impression que Vasarely va faire du Vasarely, mais qu'il sera le seul à le faire.
Oui, c'est vrai, c'est assez juste. Alors, on connaît d'autres artistes qui ont travaillé dans le mouvement Op Art. Je pense à Bridget Riley, qui est une artiste américaine. Mais c'est vrai qu'il est très marqué par son propre style. Et ce qui est assez rare, finalement, parce que quand on regarde les grands mouvements, on pense au Pop Art et tout, on retrouve quand même des influences communes entre artistes. Et Vasarely, il fait du Vasarely, comme vous le dites, c'est son art.
Comment définir l'art de Vasarely, justement, avec vos mots à vous, Hayley Edwards Dujardin?
Je dirais optique, géométrique, ludique et démocratique.
Voilà. Démocratique, pourquoi? Parce que pour tout le reste, on comprend.
Parce qu'il a voulu partager son art. D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que l'exposition s'appelle « Le partage des formes ». C'est qu'il a voulu que son art soit accessible, compréhensible déjà, avant tout, que ce soit accessible, qu'on puisse le regarder et comprendre tout de suite, sans forcément connaître l'histoire derrière, la science, les maths. C'était pas très important. Je pense que l'important, c'est de pouvoir le percevoir avec facilité. Et aussi parce qu'il a multiplié les représentations de ses œuvres, les affiches, les posters ou des objets, des jeux de société même. Donc,
avant le pop-art.
Voilà.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom.
Et David Bowie, Space Oddity, avec bien sûr la fameuse pochette de Vasarely. Vasarely, le partage des formes, c'est une grande rétrospective organisée par le Centre Pompidou. Bon, on peut parler de cette pochette de disque, mais on peut aussi parler de la pochette de tous les livres de poche qui sortaient à peu près à cette époque-là.
Oui.
Il voulait absolument avoir la patte Vasarely, il était vraiment très à la mode. Il y a bien sûr le design, d'ailleurs dans l'exposition à Beaubourg, on peut même plonger dans quelques archives de la télévision française en noir et blanc avec et retrouver Michel Polnareff ou Gérard Manset dans des décors signés par Vasarely. La culture pop lui a rendu hommage, mais lui-même, est-ce qu'il venait de cette culture? Est-ce qu'il a été porté par la science-fiction, par des lectures aussi? Elle est Édouard Sédujardin.
Je ne pense pas. Je pense que ce qui l'intéressait, c'était l'outil scientifique. Après, évidemment, dans les années 60, on est en plein dans cette période de conquête spatiale. Donc, je pense que ça fascine absolument tout le monde. Et lui, de son intérêt pour la science, va se tourner aussi vers ça. Et puis, quand il crée ses œuvres, on y voit des formes de planètes ou d'univers, de galaxies. Il y a quelque chose aussi dans sa manière qui a un côté un peu spatial.
On voit surtout le mouvement, le gonflement des formes.
Oui, tout à fait.
Et ça, il l'obtenait comment ?
Les illusions d'optique,
ouais.
C'est votre œil en fait qui voit ça. Et lui, il jouait par lui, c'est un jeu de formes qui va diminuer, de couleurs, d'ombrage. Mais c'est votre œil en fait qui fait tout ce travail-là.
Et dans votre livre, je rappelle Victor Vasarely, un artiste à redécouvrir en 40 notices. Vous dites que les lieux ont beaucoup compté pour lui. Il y a eu une période, Belle-Île par exemple.
Oui, Belle-Île est sa première période abstraite. C'est vraiment, c'est en 47, c'est à ce moment-là qu'il va faire de l'abstraction et qu'il se débarrasse complètement du figuratif. Et il va en vacances à Belle-Île, c'est tout à fait anecdotique. Il va observer des galets sur la plage et ça va lui inspirer ses formes rondes et ses ellipses en fait, sur lesquelles il va travailler à partir de ce moment-là.
Des années 60 jusqu'à la fin des années 70, on peut dire qu'il est omniprésent, Victor Vasarely.
Totalement.
Dans la publicité, pour des marques de voitures, on l'a dit, pour tout ce qui est culture pop. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait que, au début des années 80, il était devenu subitement ringard pour employer un mot qui, à l'époque, était encore utilisable?
Oui, je pense qu'avoir, le fait d'avoir été trop à la mode l'a ringardisé, en fait. Il colle tellement à une époque, et en plus, comme je disais, cette époque spatiale, donc ce space age, très années 60, très marqué.
Et très optimiste.
Oui. Et
parce qu'on n'a pas parlé de la couleur, mais on peut aussi parler de la couleur.
Bien sûr. Et je pense qu'il a tellement marqué, tellement été connecté à cette période-là que forcément, dans les années 80, quand on est passé à autre chose, on a voulu aussi se débarrasser de cette esthétique. Et donc, malheureusement, Vasarely a fait partie de cette esthétique.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces années-là, ces dernières années?
Il a continué à peindre, il a continué à développer ses œuvres toujours avec cette même patte. Et ce qui est, d'ailleurs, j'allais dire, c'est ironique finalement que dans les années 80, il est perdu de sa popularité parce que...
C'est là où il a été rattrapé un peu par le progrès au moment où on y arrive.
C'est ça.
Et ben ouais.
On est à une période où l'esthétique des ordinateurs, le pixel commence à se développer. On est fasciné par ça. Et lui, son art répondait à ça. Et finalement, la connexion ne s'est pas faite entre son art et cette époque qui mettait en avant l'art numérique.
Qu'est-ce qui l'intéressait le plus, Victor Vasarely, c'est-à-dire marquer un mouvement typiquement artistique, mélanger l'art et la science. Sa passion, c'était aussi l'architecture et comment son art peut participer à un renouvellement de l'architecture.
Oui, je pense qu'au-delà même de l'architecture, je pense que c'est la ville. Je pense qu'il voulait faire partie du paysage urbain. Et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé le terme démocratique. C'est qu'il avait envie que son art soit visible par tous, pour tous. Et ça, il y avait une forme d'utopie aussi derrière. D'ailleurs, il a voulu, un peu à la manière de Le Corbusier avec sa cité radieuse, Vasarely voulait porter le projet d'une cité polychrome du bonheur. Donc, il y avait une utopie comme ça aussi de redessiner le paysage urbain avec de l'art, avec de la couleur et que ce soit accessible à tout le monde.
Avec des rêveries cosmiques, oui. Pour reprendre un des intitulés de cette grande rétrospective Vasarely au Centre Pompidou jusqu'au 6 mai, il y a effectivement cette appellation de pop abstraction qui lui va très bien et toute cette période où il va vers l'architecture, est-ce que vous pensez, Édouard Dujardin, que c'est ça sa meilleure période
Sa meilleure peut-être pas, mais je pense la plus épanouissante pour lui.
Ouais.
Je crois que c'est là qu'il a le plus fait ce qu'il avait envie de faire. Il a commencé à l'université de Caracas, au Venezuela, et quand il en est arrivé à faire la façade d'Hertel ou le hall de la gare Montparnasse, où il y a même la patinoire de Grenoble, là, voilà, c'est son œuvre, elle prend un format monumental, surtout. C'est-à-dire que là, on sort de la toile, et pourtant, il avait des toiles aussi importantes, mais là, on est carrément dans le monumental.
Voilà, c'est tout ce qui manque à la rétrospective de Beaubourg, justement. Mais on peut les trouver quelque part à Aix-en-Provence, dans la fondation Vasarely.
Oui, parce que la façade RTL a été démontée et elle a été envoyée à la fondation Vasarely, par exemple. Mais à la gare Montparnasse, vous pouvez aller dans le hall et voir, si vous levez la tête, vous verrez du Vasarely.
Bon, et aujourd'hui, quel regard on peut porter sur ce qu'a fait Vasarely ?
Mais je pense que l'exposition comme le livre sont intéressants parce qu'ils nous ramènent à ses premières œuvres aussi et ouais. Ça change complètement notre regard sur son œuvre. Et on sort justement de cette appellation un peu à ringarde, space age, psychédélique, un peu facile.
Ou artiste récupéré par la publicité, on a entendu ça. Ouais.
Oui, il y avait il a été beaucoup décrié aussi parce qu'il avait trop, il y avait trop de posters Vasarely, trop de mini-jupes imprimées au parc. Donc c'est vrai que cette surdémocratisation de sa patte artistique lui a un peu a nuit à sa valeur artistique, mais là encore, lui, il s'en fichait de ça. Il n'était pas du tout dans le fantasme de l'artiste maudit ou de l'élite artistique. Lui, il était ravi que tout le monde puisse avoir du Vasarely, que ce soit signé de lui ou pas d'ailleurs.
Et ce côté industriel presque de son art, il l'a assumé parce qu'il va le faire genre 10 ans avant Andy Warhol et le pop art.
Totalement, c'est totalement assumé et voulu. Et d'ailleurs, ses œuvres des années 60 sont formées à partir de ce qu'il appelle une unité plastique, pour résumer très brièvement, une sorte de vocabulaire qui va mettre en place un alphabet de formes et de couleurs qui peuvent être qui permettent des combinaisons à l'infini. Et c'est une forme d'industrialisation de sa propre esthétique, en fait, parce que à partir de quelques couleurs, de quelques formes, il va créer des tableaux à l'infini. Oui, et c'est totalement souhaité. Enfin, il l'assume.
Il a raison de dire à Hélène Edwards du Jourdain que aujourd'hui, quand on voit une œuvre de Vasarely, on se pose la question si c'est passé par l'ordinateur ou pas.
C'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est là où on est impressionné finalement après coup, et on sort de cette étiquette ringarde, ou parce qu'on se dit ah oui, quand même, c'est tout ça, c'est de la peinture. Il y a quand même un geste artistique derrière. C'est pas fait à l'ordinateur.
Oui, mais il y a le côté prémonitoire. On n'a jamais utilisé le terme de rétrofuturisme pour Vasarely.
Non, c'est vrai, ni de prémonitoire, comme vous le dites. C'est vrai que c'est intéressant qu'il ait anticipé cette esthétique-là. C'est vrai que c'est très intéressant.
Et vous-même, comment êtes-vous entré dans l'œuvre de Vasarely, Hélène Edwards du Jourdain ?
Bon, moi, j'ai fait beaucoup de recherches, évidemment, mais aussi j'ai laissé parler mon imagination. Je pense que face à ce type d'œuvre, il ne faut pas hésiter à...
Non mais je vous pose la question parce que vous êtes jeune, hein, et donc vous n'avez pas connu vous n'avez pas connu l'âge d'or où Vasarely était
un peu
partout.
Non, mais c'est quand même ancré quelque part, malgré tout. Moi je suis née au tout début des années 80 et j'ai quand même, je sais pas, je l'ai pas connu, mais j'ai toujours, quand je vois cette époque-là, les années 60-70, je vois du Vasarely. D'ailleurs, quand je disais que j'étais en train d'écrire un livre sur Vasarely, la plupart de mes amis disaient « Ah, je vois pas du tout qui c'est ». Je montrais une image sur Internet, on me disait « Ah oui, c'est celui qui faisait des trucs un peu psychédéliques ». Donc il y a quand même si les gens ne connaissent pas, et d'ailleurs c'est pour ça que je parle du plus populaire des artistes méconnus, les gens connaissent son œuvre. Ils savent plus d'où, ils savent pas pourquoi, mais c'est une esthétique qui est quand même très prégnante.
Et alors, pour reformuler ma question autrement, quelle est la première œuvre de Vasarely qui vous a marqué, Hélène Edwards du Jourdain ?
Je pense que ce sont la série des CTA, et d'ailleurs la pochette de David Bowie s'est inspirée d'une œuvre CTA. Je pense que c'est celle-ci qui me marque le plus, parce que au-delà de la forme géométrique, il y a aussi une forme de scintillement qui est très intéressant, et là on est vraiment dans une esthétique cosmique.
Vasarely, le partage des formes, c'est au Centre Pompidou, Beaubourg. Si vous êtes de passage à Paris ou si vous habitez Paris, sachez que c'est jusqu'au 6 mai, que c'est vraiment une exposition rétrospective à ne pas rater. Et puis une nouvelle collection aux éditions du Chêne, ça c'est de l'art, et dans le but est de faire connaître effectivement des artistes, et ben ça commence par votre livre, Élie Edwards du Jardin, Victor Vassarelli, un artiste à redécouvrir en 40 notices. Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.